cheval, Léon Tolstoï. Chapitre 7. Troisième nuit. La nouvelle lune se leva et son fin croissant éclaira la silhouette de l'arpenteur, debout, au milieu de la cour. Les chevaux étaient groupés autour de lui. Du fait que je n'appartenais ni au comte, ni à Dieu, mais au chef d'écurie, reprit le Hongre, résulta ceci. Ce qui précisément constitue notre plus grand mérite, la rapidité de notre course, fut la cause de mon bannissement. Le jeune cygne courait sur la piste lorsque le chef d'écurie qui rentrait avec moi de Chesmenka me fit stopper près de la piste. Cygne passa devant nous. Il trottait fort bien. Cependant, il fanfaronnait un peu. Il manquait de cette précision que j'avais développée en moi de façon qu'un pied touche le sol au moment même où l'autre s'en détache. L'on évite ainsi toute dépense de force inutile, et chaque effort vous porte en avant. Cygne repassa devant nous. Je m'avançai vers la piste. Le chef d'écurie ne me retint pas. « Voyons un peu ce que fera mon pis !» s'écria-t-il. Quand Cygne fut de nouveau à notre hauteur, il me lâcha. L'autre avait déjà acquis une certaine vitesse, de sorte qu'au premier tour, je restais en arrière. Mais au second tour, je commençais à le rattraper. Je me rapprochais de son drojki. J'arrivais à sa hauteur et je le dépassais. On fit un second essai. Le résultat fut le même, j'étais plus rapide. Tout le monde en fut épouvanté. Le général demanda que l'on me vendît au loin et au plus vite, pour que l'on n'entendît plus jamais parler de moi. « Si le comte l'apprend, dit-il, ce sera une catastrophe. » On me vendit un maquignon. Je ne restai pas longtemps chez lui. Je fus acheté par un hussard venu à la foire pour la remonte. Tout cela était si injuste, si cruel, que je me sentis heureux de quitter le haras de Krenov, de me séparer à jamais de tout ce qui m'avait été si proche, si cher. J'avais le cœur trop gros parmi mes anciens compagnons. Ils étaient promis à l'amour, aux honneurs, à la liberté. Tandis que moi, j'étais condamné jusqu'à la fin de ma vie au travail et aux humiliations. Pour quelle raison? Parce que j'étais pie et qu'à cause de cela, je devais devenir la propriété de je ne sais qui. Cette nuit-là, l'arpenteur ne put poursuivre son récit. Un événement se produisit qui bouleversa tous les chevaux. Marchande, une jument pleine, avait écouté comme les autres le vieux Hongre. Soudain, elle se détourna et se dirigea lentement vers la grange. Arrivée là, elle se mit à souffler si fort qu'elle attira l'attention de tous les chevaux. Ensuite, elle se coucha, puis se leva, puis se coucha de nouveau. Les vieilles mères comprirent ce qui se passait, mais les jeunes, en proie à une vive agitation, délaissèrent le compteur et entourèrent la malade. Au matin, un nouveau poulain vacillait déjà sur ses pattes frêles. Nestère appela le chef d'écurie et la mère et l'enfant furent conduits dans un box tandis que le reste du troupeau allait paître. Chapitre 8. Quatrième nuit. Le soir, quand les portes se refermèrent et que le silence se rétablit, le Hongre continua en ces termes. Au cours de mes pérégrinations d'un propriétaire à l'autre, je pus recueillir de nombreuses observations tant sur les hommes que sur les chevaux. Je ne restai longtemps que chez deux maîtres, chez un officier de hussards, un prince, et chez une petite vieille qui habitait près de l'église Saint-Nicolas. Je passai auprès de l'officier de hussards les plus heureuses années de mon existence. Bien qu'il fût cause de ma perte, bien qu'il n'eût jamais aimé rien ni personne, je l'aimais et je l'aime précisément pour cela. Ce qui me plaisait justement en lui, c'est que beau, riche, heureux, il n'aimait personne. Vous comprenez ce sentiment élevé que nous avons, nous autres chevaux. Sa froideur, la dépendance où je me trouvais vis-à-vis de lui, prêtaient une force particulière à mon amour. « Tue-moi, épuise-moi, me disais-je parfois en second temps. J'en serais heureux. Il m'avait acheté au maquignon auquel le chef d'écurie m'avait vendu pour 800 roubles. Ce fut mon meilleur temps. Il avait une maîtresse. Je le savais parce que je le conduisais tous les jours auprès d'elle et qu'il m'arrivait parfois de les emmener tous les deux. Sa maîtresse était une beauté. Lui aussi était beau. Et beau était son cocher. Et je les aimais tous pour cela. Et l'existence m'était agréable auprès d'eux. Ma vie s'écoulait ainsi. Le matin, le palefrenier, non pas le cocher, mais le palefrenier, venait faire ma toilette. Ce palefrenier était un gars de la campagne. Il ouvrait la porte de l'écurie, rejetait le fumier, enlevait les couvertures et se mettait à nettoyer le plancher marqué par mes fers. Après quoi, il me frottait le dos avec l'étrille, tandis que je mordillais sa manche et frappais du pied en guise de plaisanterie. Puis, il me donnait à boire et restait là en admiration devant mes flancs que sa brosse avait rendus lisses et brillants, devant mes jambes fines aux larges sabots, aussi droites que des flèches, devant ma croupe et mon dos puissant où l'on aurait pu s'installer pour dormir. On apportait le foin, on versait l'avoine dans la mangeoire de chêne. C'était alors qu'arrivait Théophane le cocher. Maître et cocher se ressemblaient. Ni l'un ni l'autre n'avaient peur de rien et n'aimaient personne, eux-mêmes exceptés. Et c'était pour cela que tous les aimaient. Théophane portait une chemise rouge, des culottes de velours, un casaquin de drap. J'aimais beaucoup le voir entrer dans l'écurie les jours de fête, les cheveux bien pommadés. « Alors, vieille bête, tu ne me reconnais plus ?» criait-il en me frappant avec le manche de la fourche, mais sans me faire de mal, uniquement pour rire. Je comprenais sa plaisanterie. Je couchais une oreille, je claquais des dents. Nous avions aussi un étalon noir. On nous attelait parfois ensemble la nuit. Ce Paul Kahn ne comprenait pas la plaisanterie. Il était méchant comme un vrai diable. Nos stalles étaient voisines et il nous arrivait de nous quereller très sérieusement. Théophane ne le craignait pas, cependant. Il allait droit sur lui, se mettait à crier. « L'autre va le tuer, me disais-je. » Eh bien non. Théophane lui passait tranquillement le licou. Un jour que nous étions attelés ensemble, nous nous emballâmes dans la rue des Forgerons. Ni le maître, ni le cocher n'eurent la moindre peur. Ils riaient, criaient aux gens de s'écarter, nous retenaient, nous faisaient tourner. On n'écrasa personne. À leur service, je perdis toutes mes qualités et la moitié de ma vie. On me rendit malade en me donnant à boire quand on n'aurait pas dû le faire et l'on me brisa ainsi les jambes. Eh bien, en dépit de cela, je considère ce temps comme le meilleur de ma vie. À midi, on venait m'atteler, on graissait mes sabots, on mouillait ma frange et ma crinière et on m'introduisait dans les brancards. Le traîneau était de joncs tressés, capitonnés de velours. Le harnais était garni d'argent, les rênes étaient de soie. Quand tous les bridons et les courroies étaient ajustés et attachés, on ne pouvait plus distinguer où finissait l'attelage et où commençait le cheval. On m'attelait sous l'auvent de la grange. Théophane apparaît, le postérieur plus large que les épaules, la ceinture nouée haut sous les aisselles. Il vérifie d'un coup d'œil l'attelage, s'assit, arrange son cafetan, pose le pied dans l'étrier, lance quelques plaisanteries, fixe le fouet à sa place. Il ne m'en frappait presque jamais, mais le fouet devait être là pour le bon ordre. Il commande « Lâche-le !» Je sors d'une allure dansante par la porte cochère. La cuisinière sortie dans la cour pour vider les ordures s'arrête sur le seuil. Le paysan qui a porté du bois écarquille les yeux. Nous sortons, nous faisons quelques pas, nous nous arrêtons. Des laquais s'assemblent autour de nous, des cochers s'approchent et les conversations vont leur train. Tout le monde attend, nous restions quelquefois 3 heures à attendre ainsi devant le perron. De temps à autre, l'on me faisait faire quelques pas et puis l'on revenait. Enfin, on entend du bruit dans le vestibule. Tout gris, le ventre proéminent, le vieux Tikhon, en habit, accourt et crie « Servez !» En ce temps-là, on n'avait pas encore pris la stupide habitude de dire « En avant !» comme si je ne savais pas qu'il fallait avancer et non reculer. Théophane fait claquer ses lèvres et le traîneau s'arrête devant le perron. Le prince sort, d'un air pressé mais négligent, comme si ce traîneau, ce cheval et Théophane, qui le dos courbé tend les bras dans une attitude qu'il paraît impossible de garder longtemps, comme si tout cela n'offrait rien d'extraordinaire. Le prince, en shako, porte un manteau garni d'un col de castor argenté qui dissimule son beau visage au teint vif et aux sourcils noirs. Ce visage qu'il n'aurait jamais dû cacher. Il descend en faisant sonner son sabre, ses éperons et les quartiers de cuivre de ses socs. Il foule le tapis de l'escalier sans prêter aucune attention ni à moi ni à Théophane, à rien de ce qu'admirent tous les autres et que lui seul ne regarde pas. Théophane fait claquer ses lèvres, nous nous approchons posément au pas et nous nous arrêtons. Je jette un regard oblique vers le prince et je secoue ma tête rassée et ma fine frange. Le prince est de bonne humeur. Il plaisante parfois avec Théophane. Théophane répond en tournant à peine une belle tête. Sans abaisser les bras, il imprime au renne un mouvement presque imperceptible que je comprends aussitôt. Et une, deux, allongeant de plus en plus ma foulée, frémissant de tous mes muscles et rejetant des paquets de neige sous le traîneau, je prends le trot. En ce temps, le si compréhensible « Attention, gare-toi !» n'était pas encore remplacé par le stupide « Oh !» qui fait penser que le cocher a mal quelque part. « Attention, gare-toi !» crie de temps en temps Théophane. Et les gens s'écartent, s'arrêtent et tendent le cou pour voir le beau hongre, le beau cocher, le beau seigneur. J'aimais surtout à dépasser un trotteur. Quand de loin, Théophane et moi, nous apercevions un attelage digne de nos efforts, nous filions comme le vent. Et lentement, nous nous rapprochions, plus près, de plus en plus près. Me voici déjà au niveau de la personne qui occupe le siège arrière, et je lui envoie un jet de vapeur. Je suis à la hauteur de la sellette, de la douga. Déjà, je ne vois plus mon rival, je n'entends plus derrière moi que le bruit décroissant de sa course. Mais le prince Théophane et moi, nous gardons le silence. Nous faisons semblant d'aller simplement à nos propres affaires, sans même regarder ceux qui se trouvent sur notre chemin et dont les chevaux sont trop lents. Oui, j'aimais à rattraper, à dépasser, mais j'aimais aussi à croiser un bon trotteur. Une seconde, un son, un regard et nous nous croisons. Nous séparons et de nouveau seuls, nous poursuivons chacun notre chemin. La porte grinça. Et l'on entendit les voix de Nister et de Vaska. Chapitre 9. Cinquième nuit. Le temps commençait à changer. Il faisait gris. Il n'y eut pas de rosée le matin, mais l'air était doux et les moustiques se montraient toujours aussi collants. Dès que le troupeau fut rentré, les chevaux se réunirent autour du hongre Pie et il acheva ainsi son histoire. Cette existence heureuse ne dura pas longtemps. Je vécus ainsi 2 ans seulement. À la fin du second hiver se produisit l'événement le plus joyeux de ma carrière et, tout de suite après, le plus grand malheur qui me soit arrivé. C'était le carnaval. Je conduisis le prince aux courses de trot auxquelles prenait part ce jour-là Satiné et Taurillon. Je ne sais ce qui se passa dans le paddock, je sais seulement que le prince en sortit et ordonna à Théophane de m'amener sur la piste. Je me souviens que l'on me conduisit sur la piste et que l'on me plaça à côté de Satiné. Celui-ci courait avec un entraîneur, moi, tel que j'étais, attelé à un traîneau de ville. Au tournant, je l'avais déjà laissé derrière moi. Des rires, des hurlements de joie accueillirent mon succès. Lorsqu'on me ramena, toute une foule me fit cortège. Des gens offrirent au prince des 1000 et des 1000 pour m'avoir. Lui se contentait de rire en découvrant ses dents blanches. « Non, disait-il, ce n'est pas un cheval, c'est un ami. Je ne le donnerai pas pour des montagnes d'or. Au revoir, messieurs. » Il écarta la couverture du traîneau et s'assit. « À l'Ostojenka. » C'était l'appartement de sa maîtresse, et nous partîmes comme le vent. Ce fut notre dernier beau jour. Nous arrivâmes chez elle, il l'appelait sienne, or elle en aimait un autre, et elle était partie avec lui. Il la prit en arrivant. Il était 5 heures, et sans me dételer, Théophane me lança à sa poursuite. On me donnait des coups de fouet, et l'on m'obligeait à galoper, ce qui n'était jamais encore arrivé. Quand pour la première fois je passais du trot au galop, j'eus honte et voulus me rattraper, mais j'entendis le prince hurler d'une voix rauque « Vas-y !» Le fou siffla et me cingla cruellement. Je pris le galop en heurtant des pieds le fer du traîneau. Nous les rattrapâmes à 25 verstes de la ville. J'avais réussi, mais je ne cessais de trembler de toute la nuit et ne pus rien manger.
Le lendemain matin, on me donna à boire. Je bus. Et à partir de ce moment, je ne fus plus jamais celui que j'avais été. Je devins malade. On me maltraita, on me tortura. Les hommes appellent cela à soigner. Mes sabots se ramollirent, j'eus des engelures, mes jambes s'arquèrent, ma poitrine se rétrécit, tout mon corps s'affaiblit, je perdis mes forces. On me vendit un maquignon. Il me nourrissait de carottes et de je ne sais quoi encore, et il fit de moi quelque chose qui ne me ressemblait pas du tout, mais qui pouvait encore tromper les ignorants. De plus, lorsque se présentait un acheteur, le maquignon entrait dans ma stalle et se mettait à me donner des coups de fouet et à me faire peur jusqu'à ce que je devinsse enragé. Alors, il me frottait le dos pour effacer la trace des coups et me sortait. Une vieille femme acheta au maquignon. Elle se faisait constamment conduire à l'église de Saint-Nicolas et elle battait son cocher. Le cocher venait pleurer dans ma stalle. Et je connus ainsi que les larmes ont un goût agréable et salé. Puis la vieille mourut. Son gérard m'emmena à la campagne et me vendit à un marchand. Ensuite, j'eus une indigestion d'avoine et je devins encore plus faible. Le marchand me vendit à un paysan. Là, je labourais, ne mangeant presque rien. Et le soc de la charrue me blessa au pied. Je retombais malade. Un tzigane me racheta, il me torturait affreusement et finit par me vendre à notre gérant. Et me voilà ici. Tous se taisaient. La pluie se mit à tomber. Chapitre 10. En rentrant le lendemain soir, le troupeau rencontra le maître qu'accompagnait un visiteur. La vieille Jules Duba, qui marchait en tête, regarda de côté les deux hommes. L'un d'eux, coiffé d'un chapeau de paille, était le jeune maître. L'autre, un officier, grand, gras et flasque. La jument passa devant lui l'œil oblique, les oreilles aplaties. Les autres, les jeunes, commencèrent à s'agiter, surtout quand le maître et son hôte s'engagèrent au milieu du troupeau, en causant et en désignant différents chevaux. « Celle-ci, la Gripomelée, je l'ai achetée à Voïkov, » dit le maître. « Et l'autre, la jeune noire aux jambes blanches, d'où vient-elle? Elle est bien jolie ?» fit le visiteur. Et ils passèrent ainsi en revue nombre de chevaux, les poursuivant et les arrêtant. Ils remarquèrent également la pouliche baie. « Celle-là, elle me vient des bêtes de sel du haras de Krenov, » dit le propriétaire. Comme il ne parvenait pas à examiner tous les chevaux, le maître appela Nestor et le gardien frappa des talons les flancs du Hongre Pie qui s'avança au trot. Le Hongre courait, cahant, en boitillant, mais il était visible qu'il n'aurait récriminé en aucun cas, quand bien même on lui eût commandé de trotter ainsi jusqu'au bout du monde, jusqu'à la limite de ses forces. Il était même prêt à galoper, et il esquissa en effet un temps de galop. J'ose le dire, dans toute la Russie, il n'existe pas de meilleure bête que cette jument, déclara le maître en désignant un cheval. L'autre acquiesça. Le maître courait d'un air agité, s'arrêtait devant telle ou telle bête, racontait son histoire. Le visiteur s'ennuyait visiblement, mais il s'ingéniait à poser différentes questions qui devaient faire croire que tout cela l'intéressait beaucoup. « Oui, oui, » disait-il distraitement. « Regarde-la donc !» répétait l'autre. « Regarde ses jambes, elle m'a coûté cher, mais elle m'a déjà donné 3 poulains, et elle court. »« Court-elle bien ?» demanda le visiteur. Ils passèrent ainsi en revue la plupart des chevaux. Le maître n'avait plus rien à montrer et ils se turent. « Eh bien, rentrons, rentrons !» Ils se dirigèrent vers la porte cochère. L'officier était content que ce fût fini et que l'on aille pouvoir manger, boire, fumer. Aussi se montra-t-il plus gai. En passant devant Nestor, qui est toujours assis sur le Hongre, attendait les ordres, le visiteur frappa la croupe du Hongre de sa main grasse. « Il est bariolé, celui-là » dit-il. « J'en avais aussi un pis. Je t'ai raconté. Te rappelles-tu » Comme il ne s'agissait pas de ses chevaux à lui, le maître n'écouta pas. Se retournant, il considéra encore le troupeau. Soudain, juste au-dessus de son oreille, retentit un faible hennissement. Un hennissement bête et sénile. C'était le Hongre Pie. Mais, comme intimidé, il s'arrêta court. Ni le maître ni son hôte ne firent attention à ce hennissement, et ils rentrèrent dans la maison. Le Hongre Pie avait reconnu dans ce vieil officier obèse son maître préféré, le prince Serpukhovskoï, naguère brillant, riche et beau. Une pluie fine continuait de tomber, l'enclos était sombre, mais il en était autrement de la maison seigneuriale. La table était somptueusement servie pour le thé du soir dans le magnifique salon. Trois personnes avaient pris place à cette table, le maître et la maîtresse de maison et leur hôte. La jeune femme se tenait près du samovar. Elle était enceinte, et cela se voyait à son ventre qui remontait, à son dos rejeté en arrière, à son embonpoint et surtout à ses yeux, à ses grands yeux dont le regard doux et grave semblait tourner en dedans. Le maître tenait à la main un coffret de cigares extraordinaires, vieux de 10 ans. Des cigares, disait-il, comme personne n'en avait de semblables, et il s'apprêtait à les faire apprécier à son visiteur. C'était un beau garçon de 25 ans, frais, bien soigné, bien coiffé. Il portait à la maison un complet large et épais, fait à Londres. De lourdes et précieuses breloques pendaient à la chaîne de sa montre. Les grands boutons de sa chemise étaient en or massif, garnis de turquoise. Sa barbe était taillée à la Napoléon III, et ses moustaches raides et pommadées pointées comme on ne le voit qu'à Paris. Sa compagne portait une robe de voile de soie brodée de bouquets multicolores. Des épingles d'or, d'un modèle tout à fait particulier, retenaient ses épais cheveux blonds. Ils ne lui appartenaient pas tous, mais étaient fort beaux. Ses mains étaient chargées de bracelets et de bagues, tous de grande valeur. Le samovar était en argent, le service à thé de porcelaine fine. Un grand laquais en frac, gilet blanc et cravate blanche, se tenait près de la porte, telle une statue attendant les ordres. Les meubles, de couleurs vives, avaient des formes contournées. Les murs étaient couverts de tapisseries sombres à grandes fleurs. Près de la table, une levrette étonnamment mince faisait tinter son collier d'argent. Elle portait un nom anglais affreusement difficile et que ses maîtres prononçaient mal car ils ne savaient pas l'anglais. Dans un coin, au milieu des fleurs, il y avait un panneau incrusté. Tout était neuf, luxueux et rare. Tout était très beau, mais recherché, trop opulent, et révélait l'absence d'intérêt intellectuel. Le maître, amateur de chevaux, robuste et sanguin, était de ces hommes qui portent des pelisses de zibeline, lancent des bouquets de fleurs chères aux actrices, boivent les vins les plus coûteux, des marques les plus renommées dans les meilleurs hôtels, font des prix portant leur nom et entretiennent les femmes les plus chères. Le visiteur, Nikita Serpukhovskoï, avait dépassé la quarantaine. Il était grand, gros, chauve, avec d'épais favoris et de longues moustaches. Il avait dû être très beau autrefois. Maintenant, il s'affaissait visiblement, au physique et au moral. Et il était si criblé de dettes qu'il avait été obligé de prendre du service pour éviter la prison. Il se rendait maintenant au chef-lieu de la province, où il était nommé directeur de haras. Ce poste lui avait été obtenu par ses parents, gens influents. Il portait la tenue d'été. Sa tenue blanche et ses pantalons bleus, ainsi que son linge, étaient de la plus belle qualité. Sa montre venait d'Angleterre, ainsi que ses bottes aux semelles extraordinairement épaisses. Ayant dilapidé une fortune de 2 millions de roubles, Nikita Serpukhovskoï avait encore 120 000 roubles de dettes. D'une telle fortune, il vous reste toujours un large train de vie qui ouvre des crédits et vous permet de vivre dans une certaine opulence pendant une dizaine d'années. Ces 10 années touchaient à leur fin. Le train de vie s'amenuisait et Nikita commençait à trouver que la vie était triste. Il s'enivrait, c'est-à-dire que le vin agissait sur lui, ce qui ne se produisait jamais autrefois. Pour ce qui était de boire, à proprement parler, il n'avait jamais commencé ni cessé de boire. Mais c'était surtout à ses yeux inquiets que l'on pouvait se rendre compte de sa déchéance. Son regard papillonnait maintenant. À l'incertitude de ses intonations, de ses gestes. Cette inquiétude surprenait parce qu'on la devinait toute récente, parce qu'on voyait qu'il avait été habitué toute sa vie à ne craindre rien ni personne, et que cette peur, si contraire à sa nature, lui avait été imposée par de dures souffrances. Le maître et la maîtresse de maison remarquaient tout cela. Les regards rapides qu'ils échangeaient montraient qu'ils se comprenaient, mais remettaient à l'heure du lit l'examen détaillé de la chose. Pour le moment, ils supportaient le pauvre Nikita, et même l'entouraient d'amabilité. L'aspect heureux de son hôte humiliait Nikita. Il excitait en lui un sentiment d'envie en lui rappelant son propre passé, irrémédiablement révolu. « Le cigare ne vous dérange pas, Marie ?» dit-il en s'adressant à la jeune femme de ce ton particulier que seule confère l'expérience, de ce ton poli, amical, mais point très respectueux qu'emploient les gens du monde avec les femmes entretenues. Il ne voulait certainement pas l'offenser, au contraire. En ce moment, il aurait désiré plutôt la flatter, bien qu'il n'eût jamais consenti à se l'avouer à lui-même. Il était habitué à parler de la sorte aux femmes de ce genre. Il savait d'ailleurs que s'il l'avait traitée comme une dame du monde, elle en eût été elle-même étonnée et offensée. De plus, il lui fallait garder en réserve une certaine nuance respectueuse pour le cas où il aurait eu affaire à l'épouse légitime de son égal. Il se conduisait toujours avec déférence à l'égard des femmes entretenues. Non pas qu'il partageait les soi-disant convictions que prêchent les revues, il ne lisait jamais ses horreurs, au sujet de la liberté de la personne humaine, de l'insignifiance du mariage, etc. Mais parce que tous les gens, comme il faut, agissent ainsi, et qu'il était un homme comme il faut, bien que déchu. Il prit un cigare, mais son hôte en saisit gauchement une poignée et la lui offrit. « Non, tu verras comme ils sont bons, prends donc !» Le visiteur repoussa de la main les cigares et dans ses yeux passa une expression offensée, honteuse. « Merci. » Il sortit son propre cigare. « Goûte les miens. » La jeune femme était perspicace. Elle remarqua l'expression du visiteur et lui dit « J'aime beaucoup les cigares. Je fumerais aussi si tout le monde ne fumait pas autour de moi. » Elle eut un beau sourire plein de bonté. Nikita sourit à son tour, mais prudemment. Il lui manquait de dents. « Mais non, prends celui-là, » insistait l'autre qui manquait de tact. « Ceux-ci sont plus faibles. Fritz, Brigenziner einen Kasten, » ajouta-t-il. « Dort zwei. » Le laquais, un Allemand, apporta un autre coffret. « Lequel préfères-tu? Les grands, les plus forts? Ceux-ci sont excellents, prends tout » insistait-il. Et il était visiblement satisfait de pouvoir étaler devant quelques-uns ses richesses et ne remarquait rien. Serpukhovskoï alluma un cigare et se hâta de reprendre la conversation interrompue. « Alors, à combien cet inné était-il revenu ? Il m'est revenu cher, près de 5 000 roubles. » Mais au moins je suis tranquille maintenant. Quels enfants ! Il court déjà ? Et comment ? Son fils vient de gagner 3 prix à Toula, à Moscou et à Pétersbourg. Il a couru avec Corbeau de Voïkov. Si cette canaille de jockey ne l'avait pas fait changer d'allure à 4 reprises, il l'aurait battu de loin. Il est un peu lourd, trop de sang hollandais, dit Nikita. Et les mères donc, à quoi servent-elles? Je te les montrerai demain. J'ai donné 3 000 pour douce, 2 000 pour caressante. Et il se mit de nouveau à énumérer ses richesses. La maîtresse de maison voyait combien Serpukhovskoï en souffrait et qu'il n'écoutait que d'une oreille. « Boirez-vous encore du thé ? » demanda-t-elle. « Non, » répondit le maître de maison. Et il recommença à se vanter. Elle se leva, il s'arrêta et l'embrassa. Serpukhovskoï avait commencé de sourire en les regardant, d'un sourire artificiel qui leur était destiné. Mais lorsque son hôte enlaça la jeune femme et la reconduisit jusqu'à la porte, Nikita changea brusquement d'attitude. Il poussa un profond soupir et son visage bouffi prit une expression désespérée et même méchante. Le maître de maison revint et s'assit, toujours souriant, en face de Nikita. Ils restèrent un moment sans parler. Chapitre 11. « Tu disais que tu l'avais acheté à Voïkov ?» fit Serpukhovskoï d'un ton faussement négligent. « Oui, satiné. J'aurais voulu acheter quelques juments chez Dubovitsky, mais il ne lui restait plus rien de bon. »« Il est fauché, » dit Serpukhovskoï. Et soudain, il s'arrêta et regarda autour de lui. Il venait de se rappeler qu'il devait 20 000 roubles à ce « fauché ». Et que si l'on pouvait dire de quelqu'un « il est fauché », ces mots s'appliquaient à lui, Serpukhovskoï, mieux qu'à quiconque. Il se mit à rire. Ils restèrent de nouveau silencieux un bon moment. L'autre cherchait mentalement comment il pourrait encore éblouir le visiteur. Et celui-ci réfléchissait aux moyens de faire comprendre au maître de maison qu'il ne se considérait pas comme fauché. Mais tous deux avaient la réflexion lente en dépit des cigares qu'ils fumaient pour se remonter. « Eh bien, quand pourra-t-on boire ?» se demandait Serpukhovskoï. « Il faut boire, » se disait son hôte. « Il est ennuyeux à mourir. »«
Alors, tu restes encore longtemps ici ?» demanda Serpukhovskoï.
« Un mois environ, si l'on soupait. »«
Fritz, est-ce prêt ?»
Ils gagnèrent la salle à manger. Sous les lampes se dressait la table éclairée par des bougies et garnie de choses extraordinaires. Il y avait là des siphons, des bouteilles surmontées de bouchons ornés de petites poupées, des vins rares dans des carafons, de la vodka, des hors-d'œuvre compliqués. Ils burent, mangèrent, reburent et remangèrent, et la conversation s'engagea. Serpukhovskoï, le visage empourpré, se mit à parler sans se gêner. Ils parlèrent des femmes, chacun énumérant celles qu'ils avaient eues. Une cigane, une danseuse, une française.
« Et alors, tu as abandonné la matié ?»
C'était la maîtresse qui avait ruiné Serpukhovskoï.
« C'est elle plutôt qui m'a abandonné. Ah, mon ami, quand je pense à tout l'argent que j'ai gaspillé. Maintenant, je me sens heureux quand j'ai 1000 roubles en poche. Je suis content de quitter tous ces gens, vraiment. Impossible de vivre à Moscou. D'ailleurs, à quoi bon parler de tout cela ?»
L'autre s'ennuyait. Il avait envie de parler de lui, de se vanter. Et Serpukhovskoï avait envie de parler de soi, de son brillant passé. Son ami lui versa du vin et attendit qu'il s'arrêta pour lui parler de ses propres affaires, de son hara, où tout était organisé bien mieux que dans les autres haras, pour lui parler aussi de Marie, qu'il l'aimait de tout son cœur, et pas seulement à cause de l'argent qu'il lui donnait. « Je voulais te dire que chez moi, » commença-t-il, mais l'autre l'interrompit. « Il fut un temps, je puis le dire, où j'aimais et savais vivre. Nous parlions de course. Eh bien, dis-moi quel est ton cheval le plus rapide ?» L'autre fut ravi de pouvoir encore parler de son hara. Mais dès ses premiers mots, Serpukhovskoï l'interrompit de nouveau.
« Oui, oui, » fit-il, « mais vous autres, éleveurs, vous vous occupez de tout cela pour la gloriole seulement, pas pour le plaisir, pas pour la vie réelle. Chez moi, ce n'était pas ainsi. Je te disais tantôt que j'avais un cheval pis, tacheté, tout comme celui que monte ton gardien de troupeau. Ça, c'était un cheval. Tu ne peux pas savoir, c'était en 42. Je venais d'arriver à Moscou. Je vais chez un maquignon et je vois un ongre pis, bien bâti. Il me plut. Le prix, 1000 roubles. Il me plut, je l'achetais. Je n'ai jamais eu, et toi non plus, tu n'as jamais eu et tu n'auras jamais un cheval pareil. Jamais je n'ai vu de meilleur cheval. Et comme vitesse, et comme force, et comme beauté. Tu étais un petit garçon à cette époque, tu ne pouvais pas savoir, mais tu as entendu parler de lui et probablement tout Moscou le connaissait.
Oui, j'ai entendu. « Dit l'hôte à contre-cœur. « Mais je voulais te parler. « Ainsi tu en as entendu parler. « Je l'avais acheté à tout hasard, sans certificat d'origine. « C'est seulement plus tard que je l'ai appris. « Nous y sommes arrivés avec Voïkov. « C'était le fils d'Aimable Ier. « On l'avait surnommé l'Arpenteur. « Comme il était pis, le haras de Krenov l'avait cédé au chef d'écurie. « Celui-ci l'avait châtré et vendu un maquignon. « Des chevaux pareils, il n'y en a plus, mon ami. « Ah, c'était le bon temps. « Ah, ma jeunesse. » commença-t-il sur l'air d'une chanson de cigane. Le vin lui montait à la tête. « Oui, c'était le bon temps. J'avais 25 ans, 80 000 roubles de revenus, pas un cheveu gris, des dents comme des perles. Tout ce que j'entreprenais me réussissait. Et voilà, c'est fini. Mais aujourd'hui, on obtient des bêtes plus rapides, » dit le maître de maison profitant de cette pause. « Mes chevaux ont commencé par faire... Tes chevaux ? Ils étaient plus rapides dans le temps. »
« Comment plus rapide ?»«
Oui, plus rapide, je me souviens comme si c'était hier. Un jour, j'étais allé avec mon ongre aux courses. Je ne faisais pas courir, je n'aimais pas les trotteurs, j'avais des purs sang. Général Cholet, Mahomet... On attelait d'ordinaire le ongre. J'avais un cocher, un brave garçon, je l'aimais bien. Lui aussi, le vin l'a perdu. J'arrive donc. « Serpukhovskoï, me dit-on, quand auras-tu des trotteurs ?»« Que le diable emporte vos chevaux de paysans, mon ongre battra tous les vôtres. »
« Jamais il ne les battra. Je parie 1000 roubles. Top là !»
On lâche les chevaux. Il l'a battu de 5 secondes et j'ai gagné 1000 roubles. Mais qu'est-ce que cela? Avec mes purs sang, j'ai fait une fois 100 verstes en 3 heures. Tout Moscou le sait.
Et Serpukhovskoï se mit à mentir si abondamment et avec une telle virtuosité que son hôte se trouva dans l'impossibilité de placer un mot. Assis, le visage morne en face de Nikita, de temps à autre, il remplissait leur de verre pour se distraire. Il commençait à faire jour. Ils étaient toujours assis l'un devant l'autre. Le maître de maison s'ennuyait à mourir. Il se leva. « Allons dormir, » dit Serpukhovskoï. Il se leva et, titubant et soufflant, il gagna la chambre qu'on lui avait préparée. Le maître de maison était couché à côté de sa maîtresse.
Il est vraiment impossible, il a bu et s'est mis à mentir sans arrêt. Et il me fait la cour. Je crains qu'il ne me demande de l'argent. Serpukhovskoï, étendu tout habillé sur son lit, soufflait lourdement. « Je crois que j'ai beaucoup menti, songea-t-il. Bah, qu'importe, le vin est bon, mais lui aussi est un cochon. Il y a du marchand en lui. Et moi aussi, je suis un fameux cochon. » Il éclata de rire. « Autrefois, c'est moi qui entretenais, et maintenant je me fais entretenir. Oui, la Winkler m'entretient, je prends son argent, bien fait pour lui, mais il faut se déshabiller, je ne pourrai enlever mes bottes. Hola » cria-t-il. Mais le domestique, préposé à son service, était allé dormir depuis longtemps. Il s'assit, enleva sa tunique et laissa tomber ses pantalons. Mais il eut du mal avec ses bottes, son ventre mou le gênait. Il parvint à grand-peine à en retirer une, se démena longuement avec l'autre et finalement y renonça, essoufflé, épuisé. Il retomba sur son lit et se mit à ronfler, remplissant toute la chambre d'une odeur de vin, de tabac et de vieillesse. Chapitre 12. Si l'arpenteur se livra encore à ses souvenirs cette nuit-là, il fut interrompu par Vaska qui jeta sur lui une couverture, monta sur son dos et le lança au galop pour le laisser ensuite presque jusqu'au matin à la porte du cabaret à côté d'un cheval de paysan. Les deux bêtes se léchèrent. Le lendemain, l'arpenteur accompagna le troupeau. Il ne cessait de se gratter. « Ce que ça me démange, se disait-il. » 5 jours s'écoulèrent. On fit appeler le vétérinaire qui déclara joyeusement « C'est la gale, il faudrait le vendre aux tziganes. Ça ne vaut pas la peine. Débarrassez-nous-en aujourd'hui même. » Le matin était clair et doux. Le troupeau partit au champ. L'arpenteur resta. Vint un homme étrange, maigre, noir, sale, vêtu d'un caftan noir couvert d'éclaboussures. C'était l'écarisseur. Il prit sans un regard pour la bête la bride du licou de l'arpenteur et l'emmena. Le hongre avançait tranquillement, sans se retourner, entraînant les jambes, comme d'habitude. Quand ils furent sortis de l'enclos, l'arpenteur tendit le cou vers le puits, mais l'écarisseur tira sur la bride et dit « Ce n'est pas la peine ». Suivi de Vaska, l'écarisseur conduisit le cheval dans un ravin, derrière un hangar en briques. Et comme si cet endroit tout à fait quelconque présentait un intérêt particulier, les deux hommes s'arrêtèrent et l'écarisseur, ayant passé la bride à Vaska, enleva son cafetan, retroussa ses manches et sortit de sa botte un couteau et un affiloir. Le hongre tendit le cou vers la bride. Il aurait voulu la mâchonner pour se distraire, mais il ne put l'atteindre. Il soupira et ferma les yeux. Sa lèvre pendit, découvrant ses dents jaunes et rongées. Et il commença à s'assoupir au bruit du couteau que l'on aiguisait. Seul frémissait parfois sa jambe malade et enflée. Soudain, il sentit qu'on le saisissait sous la mâchoire et qu'on lui levait la tête. Il ouvrit les yeux. 2 chiens se tenaient devant lui. L'un d'eux flairait l'air dans la direction de l'écarisseur. L'autre était assis et regardait le hongre comme s'il en attendait quelque chose. L'arpenteur les considéra un moment, puis se mit à se frotter le nez contre le bras qui le tenait. « Ils vont sans doute me soigner, » songea-t-il, « à leur aise. » Il sentit en effet que l'on touchait sa gorge. Il éprouva une vive douleur, tressaillit. Sa jambe malade plia, mais il se retint et attendit ce qui allait arriver. Or, il arriva ceci. Quelque chose de liquide se mit à couler en un jet abondant sur son cou, sur sa poitrine. Il soupira profondément. Il se sentit allégé, allégé de tout le poids de sa vie. Il ferma les yeux et pencha la tête. Personne ne la soutenait plus. Ses jambes se mirent à trembler. Tout son corps vacilla. Il en fut moins effrayé qu'étonné. Tout devenait nouveau. Surpris, il esquissa un mouvement en avant, vers le haut, mais ses jambes s'enchevêtrèrent et il commença à glisser sur le côté. Il voulut se redresser, il s'écroula en avant et sur le flanc gauche. L'écarisseur attendit la fin des convulsions, écarta les chiens qui s'étaient approchés, prit le hongre par les pattes, le retourna sur le dos et ayant dit à Vaska de tenir une jambe, se mit à dépaisser le corps. « C'était tout de même un cheval, » fit Vaska.
S'il avait été un peu plus en chair, sa peau eût été belle, répondit l'écarisseur. Le troupeau rentrait ce soir-là par le haut, et les chevaux qui étaient à gauche purent voir en bas une masse rouge autour de laquelle s'agitaient des chiens et tournoyaient les corbeaux et les vautours. L'un des chiens, s'arc-boutant des pattes à la charogne et secouant la tête, arrachait avec des craquements le morceau qu'il avait saisi. La poule Ishbet s'arrêta, allongea le cou et aspira profondément l'air. On eut du mal à la faire avancer. À l'aurore, dans la forêt, au fond d'un ravin broussailleux, des louveteaux aux grosses têtes hurlaient joyeusement. Ils étaient 5, 4 de la même taille à peu près et un très petit dont la tête était plus forte que le corps. Traînant son ventre plein de mamelles pendantes jusqu'à terre, une louve, maigre, à moitié pelée, sortit des buissons et s'assit en face des louveteaux. Ceux-ci formèrent un demi-cercle autour d'elle. La louve s'approcha du plus petit et, abaissant la queue, la tête au ras du sol, elle fit quelques mouvements convulsifs, ouvrit sa gueule plantée de grandes dents et vomit un gros morceau de cheval. Tous les louveteaux s'approchèrent, mais la louve fit vers eux un mouvement menaçant et laissa tout le morceau au petit. Celui-ci saisit la viande en grondant, se coucha dessus et se mit à la dévorer. De la même façon, la louve vomit un morceau pour le deuxième, le troisième, et quand elle les eut nourris ainsi tous les 5, elle s'étendit près d'eux et se reposa. Une semaine plus tard, il ne restait près du hangar en briques qu'un énorme crâne et 2 omoplates. Tout le reste avait été dispersé. Lorsque vint l'été, le paysan qui ramassait les os emporta ce crâne et ses omoplates et en tira parti. Le corps de Serpukhovskoï, qui allait à travers le monde, mangeant et buvant, fut porté en terre bien plus tard. Ni sa peau, ni sa chair, ni ses os ne purent servir à rien. Et de même que depuis 20 ans, ce corps mort qui marchait, mangeait et buvait était une charge pour tout le monde, lorsqu'il fallut le mettre en terre, ce fut encore une corvée pour son entourage. Depuis longtemps déjà, il n'était plus utile à personne. Depuis longtemps, il était à la charge de tous. Et cependant, ces morts qui enterrent les morts crurent nécessaire de revêtir d'un bel uniforme le corps gras, déjà à moitié décomposé, de chausser ses pieds de belles bottes et de le coucher dans un beau cercueil garni aux 4 angles de glands neufs. Ce cercueil fut mis dans un autre, en plomb, que l'on envoya à Moscou. À Moscou, on jugea nécessaire de déterrer de vieux os humains et d'enfuir précisément à cet endroit ce corps pourri et grouillant de verre dans son uniforme neuf et ses bottes bien cirées, puis de jeter de la terre par-dessus le tout.